Je vous ai quitté, ça m'arrive, hein. Dimanche dernier, en vous disant qu'il est une décision que nous serions toujours et en permanence appelés à prendre si nous voulions grandir spirituellement, si nous voulions devenir des disciples. Et cette décision, c'est l'abandon. C'est de s'abandonner à Dieu, de laisser les reins de nos vies à Dieu. Cette pratique, parce que c'est une pratique qu'il faut apprendre, cette pratique de vie s'impose en permanence si nous voulons devenir disciples, parce qu'elle repose sur une réalité immuable et incontestable. Il y a un Dieu, ce n'est pas nous. Voilà. À la semaine prochaine. Méditez. Hein. Les pères de l'Église, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Une phrase, et ils étaient tranquilles 3-4 ans. Ah, c'est le bon temps. Soit. Pour la Bible, ça constitue, hein, cette prise de conscience, il y a un Dieu, ce n'est pas moi, ça constitue le commencement de la sagesse. Si nous sommes honnêtes, nous allons bien devoir reconnaître que dans un premier temps, ça ne nous arrange pas du tout qu'il y ait un Dieu, que ça ne soit pas nous, parce que nous aimerions bien diriger le monde, en tout cas le nôtre. La vie des autres, je m'en fous un peu, mais la mienne, j'aimerais bien la diriger moi-même. J'aimerais que tous mes désirs soient rencontrés, j'aimerais tout simplement suivre le chemin que j'ai envie de suivre, que j'ai choisi. Ça nous vient assez naturellement, je pense, comme réflexion. Par contre, dès que nous prenons le temps de réfléchir, si ça nous arrive, le fait que nous ne soyons pas Dieu s'avère, en fait, être une très bonne nouvelle dans l'absolu. Ça signifie que quelqu'un de bien plus intelligent et de bien plus sage que moi dirige les choses. C'est son rôle d'être Dieu et c'est mon rôle d'apprendre à le laisser être ce qu'il est. On va prendre un premier texte qui va dans ce sens-là. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est notre ami le roi David. Voilà. C'est une icône de David, une icône orthodoxe. Psaume 14, verset 1, « Le fou dit dans son cœur, ou l'insensé, selon les traductions, il n'y a pas de Dieu. » On y est encore, il y a plein de gens qui disent « Ouais, Dieu, des conneries, tout ça, voilà. » « Il n'y a pas de Dieu. » Le plus dommageable pour les chrétiens que nous sommes, c'est quand, dans notre pratique de vie, nous vivons comme s'il n'y avait pas de Dieu. Il y a un pasteur américain qui a écrit un livre que j'ai eu l'occasion de lire, au titre très interpellant qu'il a appelé l'athéisme chrétien. Il dit qu'aujourd'hui, dans beaucoup de parties du monde occidental, les chrétiens vivent comme des athées, comme si Dieu n'existait pas. Alors que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu vit sa vie comme si Dieu n'existait pas, ben ça on peut s'y attendre. Que des chrétiens vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas, on a un léger souci. Nous le savons sans doute, la plus vieille des tentations consiste à aspirer à être comme Dieu, autrement dit à prendre sa place. On va reprendre ce verset dans Genèse 3:5. Merci. Pas beau mon serpent. Il est beau mon serpent. Hein. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, c'est le serpent qui dit ça à Ève, bon, c'est une parabole à Genèse, hein, je ne vais pas refaire un cours là-dessus, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Jusqu'alors, ben, ils connaissent que le bien. Ça, c'est pas trop compliqué de vivre dans une béatitude permanente, entouré de la présence de Dieu, baignant la présence de Dieu et ne connaissant que le bien. Parce que ça, l'homme peut gérer. À partir du moment où le mal rentre dans l'équation, là, l'homme, il peut gérer tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas gérer le mal. Impossible. C'est donc cette revendication à l'indépendance, à devenir comme Dieu et à prendre sa place qui a foutu le truc en l'air dès le départ. Et c'est avec ça que nous nous battons au quotidien. Même si souvent on n'en est pas conscient nous-mêmes. La vraie vie, c'est la base de l'enseignement de Jésus, commence lorsque je meurs à ce faux Dieu, à moi-même, que je prétends être. Quand je redonne la direction, la capacité de direction à Dieu. Et dans ce cas-là, Jésus va jusqu'à dire que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Sa présence est tellement énorme que ça va déborder vers les autres. Hein? José, débordement. La seule décision, c'est une bonne nouvelle, il n'y en a qu'une, la seule décision que j'ai à prendre à chaque instant pour que ça devienne réalité, c'est de m'abandonner, c'est de me rendre volontairement à Dieu. Et ça vaut même, et peut-être même surtout, lorsque je ne sais pas trop quoi faire, lorsque je suis perdu au cœur de ma propre vie, ce qui nous arrive quand même de temps en temps, car notre inquiétude et notre souffrance, nos questionnements et nos motivations égoïstes sont autant de choses qui peuvent nous voiler la présence de Dieu. C'est Jean Calvin, réformateur, que vous connaissez sans doute, qui a dit ceci. Le seul port, certains reconnaîtront le port, sans doute, le seul port où nous pouvons être en sécurité, c'est de n'avoir pas d'autre volonté, pas d'autre sagesse que de suivre le Seigneur où qu'il nous mène. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le port de plaisance de Campo Amor en Espagne. Dieu voulant, j'y serai dans une semaine. Là, 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 là. Alors, mon bateau, non, j'invente. Je n'ai pas de bateau, rassurez-vous. Hein. Bon, là. Voilà donc le premier pas. Nous abandonner à Dieu et consacrer toute notre énergie et tout notre esprit à son service. Mais pour faire ça, nous allons devoir faire face à notre plus grande peur. C'est justement de lâcher prise. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je crois honnêtement que l'une des expériences les plus effrayantes pour des parents, c'est lorsqu'ils placent leur nouveau-né pour la première fois dans le cosy, c'est ça, je ne sais plus. Maxi, c'était tellement longtemps. Le maxi-cosy à l'arrière de la voiture. C'est à ce moment-là qu'on se dit, j'ai une vie toute fragile derrière, là. On se sent terriblement responsable de ça. On se dit, ah, le moindre truc, ça, enfin, un bébé, c'est terriblement vulnérable. Il y a un deuxième moment où on va prendre conscience que la vie est très fragile, c'est quand ce même bébé aura une vingtaine d'années en plus et qu'il va vous demander les clés de votre voiture. Ça, c'est un deuxième moment de grande solitude, surtout si vous êtes assis à côté de votre fils ou de votre fille dans la même voiture. C'est stressant de ne pas avoir le volant quand vous roulez avec quelqu'un, parce que souvent on appuie sur des pédales imaginaires, parce qu'on n'aurait pas freiné aussi tard, parce qu'on aurait accéléré plus vite, parce qu'on aurait dépassé autrement, etc., etc. Donc ça manifeste simplement notre insécurité de ne pas avoir le volant et les pédales, de ne pas contrôler la voiture. Et cette analogie, on la connaît depuis que les voitures existent dans l'Église. On emploie souvent cette image que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens trouvent plutôt sympa d'avoir Jésus assis dans le siège passager, surtout lorsqu'ils ont besoin de ses services. Jésus, j'ai un problème de santé, j'ai besoin de ton aide. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je vis quelque chose de difficile au boulot et j'aimerais vraiment que ça change. Change mon siège de service, arrange-toi pour qu'il tombe dans un trou, qu'il y ait un bus qui passe dessus, enfin voilà. Débrouille-toi, mais arrange-moi la situation. Jésus, je me sens anxieux et j'aimerais que tu m'apportes la paix de l'esprit. Jésus, je me sens triste, j'aurais besoin d'un peu d'espoir, donne-moi de l'espérance. Jésus, je fais face à la mort et je vais être certain que je vais au paradis, etc., etc., etc. Je pense vraiment que c'est le genre de prière qui monte le plus à l'étage, vraiment. Mais ce sont des prières très égocentriques, encore une fois. Mais toutes ces personnes ne sont pas sûres de vouloir que Jésus conduise leur vie. Parce que si c'est lui qui tient le volant, elles ne vont forcément plus rien contrôler du tout. Si c'est le Christ qui conduit, elles ne seront plus les maîtres de quoi que ce soit dans leur vie, pas même leur portefeuille. Elles ne pourront plus dire « je donnerai parfois quand je me sentirai généreux ou quand il restera quelque chose à la fin du mois, mais de toute façon je me réserve le droit de me garder ce que je veux. » Ah ben c'est fini, si c'est Dieu qui conduit, c'est le pognon de Jésus, c'est le portefeuille de Jésus. Lorsque je laisse Jésus conduire, je ne suis plus le patron de mon ego non plus. Je n'ai plus le droit de satisfaire tous mes désirs sous prétexte que ce sont mes désirs. À présent, c'est sa vie que je vis au travers de la mienne. C'est sa vie que je laisse se développer en moi. Je ne suis plus propriétaire de ma bouche. Je n'ai plus à médire, à critiquer, à flatter, à condamner, à mentir, à maudire, à enrager, à tricher, à intimider, à manipuler ou à exagérer. C'est le bruxellois qui parle. Parce qu'à présent, ce n'est plus ma bouche. C'est la bouche de Jésus. C'est la sienne. Je quitte le siège conducteur. Je tends les clés à Jésus et je le fais volontairement. Je participe pleinement à cet acte de reddition. Je me rends. J'arrête de me fatiguer à être Dieu dans ma propre vie. Quand on essaie de poser cet acte, il y a un sentiment qui vient tout de suite. On a l'impression de perdre sa vie. On va être honnête. Enfin, j'essaie toujours de l'être. Je ne sais pas si j'y arrive toujours. Quand vous faites cette démarche, sincèrement, à Dieu honore ça, mais dans un premier temps, en termes de ressenti très humain, intérieurement, psychologiquement, à tous les niveaux de votre être intérieur, vous avez l'impression, en donnant les clés, que vous perdez votre vie. Il y a un sentiment de solitude intérieure, profond, qui s'installe. Alors, ça a été mon cas pour moi. Je ne suis pas en train de dire que je vis ça tous les jours. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Mais bien longtemps, j'ai fait cette démarche. Mais je ne suis pas le seul. Et chaque fois qu'on discute avec des gens qui ont fait cette démarche il y a quelques années, ils ont tous eu ce même sentiment. Ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, de perdre votre vie, vous gagnez votre vie. Mais il va falloir un petit peu de temps pour s'en rendre conscience, pour en prendre conscience, pardon. Dès lors, la question s'impose. Hein. Ai-je invité Jésus à faire une balade en voiture ou est-ce que c'est lui qui conduit ? Ça, c'est bête que ça. Hein. On emploie surtout, souvent le vocable « Seigneur hein, », vous le savez bien. Je sais bien que dans la Genèse, c'est le même vocable quand Sarah, la femme d'Abraham, appelait Abraham « mon Seigneur ». C'est le bon temps quand même. Hein, Nicolas ? Non ? C'est le bon temps. Mais dans le texte, dans la littérature du Nouveau Testament, ce mot « Seigneur » a une connotation bien plus forte. Hein. Il est le Seigneur, donc c'est, bon, je vais le dire autrement, ce Seigneur-là, il n'a que des serviteurs. Et je ne sais pas vraiment si dans l'Antiquité, au 1er siècle, on pouvait espérer qu'un maître demande l'avis de son serviteur ou quoi que ce soit. Oui, c'est quand même... Et pour être tout à fait complet, la différence qui va se passer si vous donnez les clés de votre vie à Dieu pour qu'il la conduise et que vous arrêtez de le faire vous-même, il y a un truc extraordinaire qui va se passer, c'est que vous allez prendre conscience en fait, que vous passez pratiquement dans votre vie chrétienne du statut de serviteur qui fait des trucs parce qu'il faut les faire, à celui de fils et de fille. C'est plus le Seigneur, c'est votre Père. Vous passez dans la dynamique familiale, c'est votre Père. Et vous êtes héritier de votre Père. C'est Paul qui dit ça. Vous êtes co-héritier de Christ. Vous avez tout hérité. Ce royaume, c'est pour vous que je l'ai créé. Vous serez des princes et des princesses. Mais c'est vrai, c'est la théologie du Nouveau Testament. Hein. Quand vous prenez la parabole du fils prodigue, c'est ça qui est frappant. Il y a le jeune qui revient et qui donne sa vie à son père et qui est restauré dans sa situation et il devient véritablement fils dans la relation avec son père pour la première fois. Et le fils aîné qui revient des champs, qui râle surtout « Et moi, j'ai jamais rien fait de mal et j'ai toujours servi. » Voilà, ça, c'est une mentalité d'esclave, ça. Je fais, mais parce qu'il y a un intérêt, quoi. Si j'en vais promener mon père, il ne va peut-être pas me donner mon héritage, etc., etc. Donc, vous voyez, on est rarement conscient que ces deux perspectives de vie chrétienne sont en continuelle bataille à l'intérieur de nous. Alors, je viens de dire un certain nombre de choses. Voyons ce que Jésus en pense. Hein. Voilà. On pourrait dire, oui, bon, Yves, t'es bien gentil, tout ce que tu nous racontes, mais voilà. Voilà, c'est Jésus. Hein. C'est trois citations du Nouveau Testament. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Alors, il ne parle pas seulement de la vie après la mort, hein, parce que bon... Oh, j'espère cette vie après la mort, parce que cette vie ici, c'est une catastrophe. Jésus parle déjà de la vie dans l'esprit ici. Hein. Deuxième passage, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous mourrez à vous-même, vous donnez les clés de votre vie à Dieu, il y a d'autres choses, votre vie va commencer à porter du fruit pour le royaume. Parce que c'est difficile de vivre et de fréquenter des gens qui sont pleinement habités par la présence de Dieu sans être marqués par cette présence. Du style... T'es solidement habité comme mec, quoi, quand même. Tu fais un peu peur, mais waouh! Tu ne rentres jamais tout seul dans la maison. Hein. Voilà. Matthieu 16. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Notre vie ne peut pas être autre que celle de notre Seigneur. Hein. Qu'il me suive. Donc il me semble très clair sur ce point. Il n'existe aucun chemin menant vers Dieu qui puisse être emprunté par un être humain et qui n'inclut pas l'abandon total. Tant qu'on a l'illusion qu'on peut vivre sa vie comme on veut et suivre Jésus en même temps, eh bien on a quoi ? Un cœur divisé. Et on est malheureux. Parce que de temps en temps, comme l'Esprit Saint là, on culpabilise quand même. On sait qu'on est en dessous de tout, ou qu'on est à côté de ses pompes, qu'on a fait des mauvais choix. Et Dieu pardonne parce qu'il nous aime. En attendant, les choix, il faut faire avec après, hein, les conséquences. Alors j'aimerais quand même préciser que l'abandon n'est pas synonyme de passivité. Hein. Dieu nous attend, tu mènes ma vie, je suis là, je ne sers à rien, je suis nul, pas du tout, hein, forcément. La volonté de Dieu pour votre vie implique l'exercice de votre créativité, pour ceux qui en ont, va impliquer de faire des choix, mais dirigés par le Christ, de prendre des initiatives dirigées par le Christ aussi. S'abandonner ne veut pas dire devenir un paillasson ou une chiffe molle. Vraiment, hein. C'est parfois que c'est une peur que l'on a. Et ça ne veut pas dire non plus que vous deviez tout accepter avec fatalisme. Au contraire, la plupart du temps, cela voudra dire vous battre pour éviter justement la stagnation, le status quo, que rien ne bouge. L'abandon ne décrit pas davantage un état où vous arrêteriez d'utiliser votre capacité de penser, de poser des questions ou de conserver un esprit critique. Dieu vous a donné un cerveau, c'est pour vous en servir. Nous avons tous et toutes une certaine forme d'intelligence. Il y a des intelligences différentes. Hein. Voilà. Ce n'est pas pour faire décoratif. Hein. C'est vraiment pour qu'on l'exerce. Mais cette intelligence doit être renouvelée par la présence de Dieu aussi et par sa parole, bien entendu. Donc l'abandon n'est pas une béquille pour personnes fragiles ou faibles, c'est ce qu'on entend parfois, qui n'en sortent pas dans la vie. C'est une reconnaissance heureuse et volontaire qu'il y a un Dieu, vraiment, hein, et que ce n'est pas moi. Ce qui implique que ces projets pour ma vie sont bien plus sages et meilleurs que mes désirs, même ceux qui me semblent les plus légitimes. Donc il y a un élément qu'il va falloir peut-être retenir aujourd'hui, dans tout ce que je vais dire, ce que j'ai déjà dit. Tu veux la suivante, quoi ? Jésus n'est pas venu pour réarranger l'extérieur de notre vie comme nous le voulons, il est venu pour réarranger l'intérieur de notre vie comme Dieu le veut. Si je dois le dire autrement, notre vie ne nous appartient plus. Voilà. Mais nous sommes libres. Nous étions, avant la rencontre avec Dieu, pécheurs, perdus, terrorisés par la mort, la finitude des choses, etc. Nous sommes rentrés dans le royaume de lumière, une très belle Colossiens, hein, rappelez, je vous le cite. Hein, vous avez, Paul dit, vous avez été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume lumineux du Christ. C'est magnifique, hein, comme déplacement spirituel. C'est notre position aujourd'hui. Nous n'avions pas le choix de faire ce que nous faisions avant de connaître Dieu. Aujourd'hui, nous avons le choix de suivre Dieu, donc de suivre l'Esprit, ou de ne pas le suivre. Nous avons cette liberté, avec les conséquences qui s'en suivent, évidemment, si on pose le choix, le mauvais choix. Voilà. Donc Jésus n'est pas un ravaleur de façade, c'est un décorateur d'intérieur. Même si ce qu'il fait à l'intérieur, après de la pub avec le Bifida Active, se voit à l'extérieur. Vous vous rappelez ? Voilà. Donc dans l'abandon, je laisse ma vie. Et c'est une, je sais bien, c'est une véritable révolution copernicienne de l'âme dans laquelle je me sors du centre de l'univers et j'y place Dieu. Je ne suis plus le centre de mon univers, le centre de mon univers, c'est Dieu. J'offre mon obéissance, je fais ce qu'il me dit, je ne conduis plus ma vie. Vous savez, dans notre culture occidentale, un peu encore matinée de christianisme, de moins en moins malheureusement, enfin il y a encore des petites lumières quelque part, lorsqu'on évoque les choses spirituelles, il y a des messages de la Bible que beaucoup de gens connaissent, parce qu'ils ont vu ça au catéchisme, enfin peu importe, hein, dans leur parcours, en étant enfant ou autre, et on aime tous entendre ça. Peu importe, je vous fais le package, hein, le résumé, peu importe le nombre de fois où tu fais l'andouille, Dieu t'aime toujours. Ah, bon, c'est génial ça, hein. C'est surtout génial pour moi. Et puis il y en a une autre qu'on aime bien. Tu es si occupé, si fatigué. Dieu veut que tu te reposes. Il veut t'offrir des temps de rafraîchissement. Psaume 23, mais c'est vrai, hein ? Oh, ça on aime bien, hein, franchement. Mais il y en a d'autres. C'est un peu plus compliqué. Hein. Tu as besoin de te rendre. Tu es un pécheur. Tu es têtu comme une mule. Tu as la nuque raide, hein, c'est l'expression biblique. Hein. Quand Dieu parle à Israël, tu es un peuple à la nuque raide. Allusion au fait que tu... Pour diriger les bœufs, on tire, on fait pression sur leur nuque pour les orienter. Ben, Dieu dit, Israël, moi je peux tirer comme je veux, ça ne bouge rien du tout. De temps en temps, Dieu nous dit ça aussi. Tu es têtu, tu as la nuque raide, hein, tu ne veux rien entendre. Tu es égocentrique, tu ne penses qu'à toi. Ça, je pense que Dieu nous le dit souvent. Mais, enfin moi en tout cas. Voilà. Tes désirs sont quasi toujours orientés vers ta petite personne. Et ta capacité à te voir tel que tu es est aveuglée par celle que tu as te tromper en permanence sur ton compte. On ne se voit pas comme nous sommes. Hein. Vraiment, on a un peu dit ça la semaine passée. Mais tu as besoin de te rendre, tu as besoin de soumettre ton cœur, tu as besoin de confesser tes péchés, tu as besoin de t'abandonner totalement à moi. Si on, parce que, d'une certaine manière, si on est convaincu, vraiment, hein, profondément, que Dieu nous aime, pourquoi si on ne s'abandonne pas? Alors, je sais que ce mot « abandon » est un mot difficile, et je connais en tout cas au moins une personne sur cette planète qui déteste ce mot. C'est moi. Par câblage familial, c'est vraiment un des trucs avec lesquels j'ai eu le plus de problèmes. J'ai encore parfois un petit problème avec ça quand même. Hein. Il y a encore des réglages à faire. Vous savez, une fois par an au moins, je vais en retraite à Saint-Jean-du-Gard, chez Daniel Bourguet, dans les Cévennes. Vous savez, là où ça tape à 45 degrés quasi pour l'instant. C'est pour ça que je n'y vais pas à cette période. Moi, je vais quand il fait plus frais, quoi. Voilà. Il y a 3 offices par jour, et le vendredi, on psalmodie les psaumes, donc on prend des psaumes et on les psalmodie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Enfin voilà, psalmodie, d'accord ? Alors, pour les nouveaux, vraiment, à un moment, ça fait un peu bizarre, quoi. Et le vendredi, l'office du vendredi matin, systématiquement, il y a le psaume 51 qui revient. Le psaume 51, c'est ce très beau psaume de confession de David, où il demande d'être purifié de son péché. Et là, dans tous les psautiers qui sont à disposition sur les petits bancs à côté des chaises, il y a, en dessous du psaume 51, une petite remarque que Daniel a mis à la main. Vous pouvez vous agenouiller si vous voulez. Parce que pour demander pardon, devant son Seigneur. Alors je pense qu'un joueur de foot, il marque un goal, son attitude corporelle exprime qu'il est content d'avoir marqué. Sauf Lukaku. Il marque tellement souvent qu'il est blasé, lui, sans doute. Mais normalement, il exulte de joie. Pourquoi ? Parce qu'il vient de réaliser un chouette truc. Quand nous sommes dans la contrition, quand nous avons besoin de réaffirmer que nous nous rendons, que nous nous abandonnons à Dieu, je pense que se mettre à genoux, c'est une bonne idée. Ce n'est pas une obligation. Hein. Mais corporellement, on manifeste, rien que par la posture, sans même prononcer une parole, que l'on est dans cette dimension de reddition. De là à dire que les enfants devraient s'agenouiller devant leur père, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirais pas, bien entendu, parce que ma fille, elle me frapperait. Je suis un papa battu, moi. Lorsque dans les temps anciens, un sujet, un homme, une femme, venait devant son roi, je parle des rôles d'Antiquité, hein, ou même Louis XIV, Louis XV, peu importe, que faisait-il pour manifester son humilité ? Et sa prise de conscience qu'il était en présence du roi des rois. Ben, il se mettait à genoux. Lorsqu'un croyant, quelle que soit sa religion, vient pour prier son Dieu, que fait-il la plupart du temps ? Pas toujours, hein, mais la plupart du temps. Il s'agenouille pour témoigner du fait qu'il est en présence de son Dieu, de son maître. Lorsqu'un homme demande à une femme de l'épouser, que fait-il ? Il s'agenouille pour témoigner du fait qu'il a rencontré son maître. Vous avez compris le principe, je pense. Hein. Exalté dans la victoire, parfois on est rempli de joie par la présence de Dieu, on a des raisons de se réjouir, mais sauter en l'air, hein, taper des mains. Quoi. Mais soyez agenouillés dans l'abandon. Les deux postures peuvent sembler antagonistes, et pourtant. Pourtant, Jésus a bien compris que si tu veux expérimenter la victoire, tu dois commencer par l'abandon. À la croix et la résurrection sont des magnifiques victoires. Mais quel a été le prix de ça ? C'est le jardin, hein, juste avant. C'est s'abandonner. Et le texte est clair, il s'est mis à plat ventre. Il y a d'ailleurs un texte, je crois que c'est dans Jean, mais je ne suis pas sûr. Mais non, c'est dans Luc, où Jésus, dans le jardin, se couche sur ses faces. Le grec dit « ses faces », pas « sa face ». C'est face, dimension trinitaire, c'est intéressant ça. Enfin, je n'ai pas le temps de développer, mais il faudrait. Même Jésus, à la croix, grande victoire, magnifique, merci Seigneur, magnifique, la résurrection, paf, ouais, réjouissance, le dimanche, youhou, on fait la teuf. Oui, mais ça a coûté le vendredi, hein. Et d'abord le jardin. Donc penser qu'on va connaître cette victoire de la présence de Dieu dans nos vies sans passer par des moments difficiles, on va devoir s'habituer à se rendre, je pense qu'on rêve. Je pense que nous rêvons. L'abandon, c'est la clé de la vie selon l'esprit. Paul développera ça beaucoup mieux que moi, bien sûr, hein, dans quasi toutes ses épîtres, dans Galates. L'abandon est la clé de la vie conduite par l'Esprit Saint. Puisque nous sommes libres de le suivre ou pas, il faut forcément que nous abandonnions pour que ça se passe, hein, forcément. Alors nous avons parfois, pour les plus courageux d'entre nous, parce qu'il y en a, remplacé l'abandon par notre volonté. Vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait avec le petit graphique avec la volonté au centre, et je vous ai dit la volonté, voilà. Comme on dit à Bruxelles, la volonté, c'est un peu Steven Scale. Hein. Toutes les personnes que je connais, et j'en connais, et qui fonctionnent par la volonté, développent systématiquement les mêmes symptômes. Fatigue, agressivité, orgueil, amertume, jugement, colère, incapacité chronique à se voir tels qu'ils sont. Ils ne pourraient pas. Ils font tout par volonté. Mais c'est épuisant. Hein. Vous ne pouvez pas vivre votre vie spirituelle sur votre propre volonté sans l'aide de Dieu. Parce que dès que tu marches sur ta volonté, tu ne marches pas sur la capacité que Dieu te donne à faire ce qu'il te demande. Hein. La volonté est propre, mes amis, seule, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a tant de fatigués. Celui qui a rédigé la charte des alcooliques anonymes l'explique très bien, en fait. Parce que c'est le même, c'est en réfléchissant sur ces textes qu'il a constitué ça. Il dit, je le cite, hein, « Nous sommes incapables, à certains moments, de ramener à notre conscience, avec suffisamment de force, la souffrance et l'humiliation de ce qui s'est passé il y a peut-être une semaine à peine quand la personne a replongé dans l'alcool. La conséquence évidente qui suit le fait de prendre un verre n'occupe pas notre esprit pour nous en s'en dissuader. Autrement dit, le lendemain, ce qu'on appelle les serments d'alcoolique, vous prenez une tamponne, je me rappelle quand j'étais jeune et beau, et vous étiez malade toute la nuit, et puis, enfin toute la nuit ce qu'il en restait, et puis le matin, dans la salle de bain, devant, plus jamais. Alors le jour même peut-être. Mais le lendemain, donc ça se dissipe. Vous voyez, ça se dissipe. Donc le plus jamais, c'est ma volonté. Trois jours après, et c'est reparti. Et c'est ce qu'il dit là. Autrement dit, s'il avait fabriqué, construit le principe des AA sur la base de la capacité personnelle de l'homme à vaincre ses démons et ses addictions, ben là, il y a bien longtemps qu'on n'en parlerait plus parce que ça ne fonctionnerait pas. Donc quand nous essayons de vaincre un problème avec ou par notre propre volonté, eh bien, il se passe toujours la même chose, c'est qu'on est vaincu. Tôt ou tard, ça recasse. Abandonnez votre volonté à Dieu. Et dans le cas des alcooliques, la sobriété est possible. Ça devient, c'est pas facile, hein, mais ça devient possible. C'est ce que prouvent encore une fois les AA depuis plus d'un siècle maintenant. Et c'est forcément pas seulement valable avec l'alcool, hein, mais avec plein de trucs. Et en général, ça fonctionne, ce principe fonctionne avec tous les types d'addictions, quel que ça soit. Donc il est possible de recevoir cette capacité de devenir la personne que je veux être devant Dieu. Mais pour cela, je dois donner absolument les clés de ma vie à quelqu'un d'autre, ou ça ne fonctionnera pas. Puis le premier cadeau que vous recevez quand vous vous abandonnez, vous savez ce que c'est ? Moi qui le dis, c'est Jésus, hein, c'est la paix. Dedans, quel que soit les trucs qui tombent, hein, la paix. Rappelez, hein, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Pourquoi ? Parce que le monde, c'est quoi la paix pour le monde ? C'est l'absence de guerre. Ce n'est pas ça la paix du Christ. Pourquoi ? Parce que la paix, c'est une personne. C'est comme la vérité. Pour nous, pour les chrétiens, la paix, c'est le Christ. La vérité, c'est le Christ. La conséquence de l'abandon, c'est la paix. C'est lui qui sait, quoi. Moi, je suis. Je ne comprends pas parfois par une main, mais moi, je suis. Si je vis dans l'illusion que je suis Dieu, je vais me rendre fou, croyez-moi, et avec moi, tout mon entourage, par mon besoin de tout contrôler. Il y a des degrés là-dedans, mais par principe, ça va être très difficile à gérer. Lorsque je me rends, je ne laisse pas seulement aller ma volonté, je laisse aussi aller toute idée que je suis, j'avais déjà développé ça il y a des années, que je suis non responsable des résultats. Lorsqu'on est en voiture et que nous sommes assis dans le siège passager, nous avons une fastueuse tendance, je l'ai dit, à tenter d'appuyer sur des pédales imaginaires, etc., ou de tirer sur un volant qui n'existe pas. Comme si mon corps croyait que cela permettra à la voiture de freiner. C'est un soulagement donc de croire dans le sens profond du verbe, autrement dit de savoir avec certitude que quelqu'un d'autre de plus compétent que moi est derrière le volant. Ce qui veut dire que je n'ai plus à contrôler les résultats de ma vie. Parce que ce n'est plus moi qui mène. Les résultats que je rencontre sont la conséquence du chemin que Dieu trace devant moi. J'aime mes enfants du mieux que je peux. Je fais le maximum. Sous la conduite de Dieu. Vous avez compris le principe. Mais je ne suis pas responsable de leur destinée. Je crois qu'en tant que parent, très vite, on se rend compte qu'on a perdu la prise. Je ne sais pas, vous, mais moi, il y a longtemps, je dis oui, ok, compris. Je peux souffrir d'une trompette, ça ne change à rien. Voilà. Pas de l'amour, ça, il faut toujours donner à l'appel, si vous savez. À l'appel. Je vous trompez jamais en aimant, de toute façon. Trompez pas. J'essaie d'être sage avec mon argent, mais je ne dirige pas les marchés financiers. 2008, il y a des gens qui plaçaient bien gentiment, qui étaient bien responsables, et ça fait patatras. Même parfois sur des obligations ou des actions qui étaient super, soi-disant, sécurisées, et ils ont tout perdu. Voilà. Par contre, s'ils avaient mis une partie de leur assurance vie là-dedans, et pas en Dieu, aïe aïe aïe. Non seulement tu perds ton pognon, mais tu perds ta paix. T'es détruit intérieurement. Parce que ta paix fout le camp avec. Puisque c'est le pognon qui t'assurait tes arrières. La bonne nouvelle face aux inquiétudes que procure la vie, c'est que chaque fois que vous avez l'occasion de vous inquiéter, croyez-moi que ça vient souvent, c'est aussi une occasion, une chance de pratiquer le lâcher-prise. Au niveau du besoin que nous avons, humainement parlant, de contrôler les résultats. Je commence à m'inquiéter, stop, m'inquiète plus. Seigneur, tu sais, voilà, tu t'en occupes. Moi, je veux bien prier pour ça, parce que c'est important pour moi. Mais moi, je ne... voilà. Et ça marche, le coco. Franchement, ça marche. Il existe un Dieu, ce n'est pas moi. J'ai des amis qui sont venus manger à la maison hier. Dans un temps d'aparté, c'est un couple. Il y en a un qui m'a dit, ma femme a peut-être tac-tac. Et il me dit, mais toi, je sais aussi que tu as peut-être tac-tac. J'ai dit, oui. Il dit, comment tu fais pour ne pas t'inquiéter? Là, je pars, ben, je pars. Quoi. Ma femme n'aime pas entendre ça. Je pars, ben, je pars. Voilà, c'est tout. Bon, je vais vous manquer. Allez. Oh oui, c'est là que vous... voilà. Mais ce n'est pas grâce à moi. Moi, je ne suis... Je tiens de ma mère beaucoup. Ma mère, c'est une anxieuse, mais congénitale. Elle découpe la bidoche à longueur de journée. Même quand il n'y a rien, elle en crée des inquiétudes. Donc moi, j'ai fort hérité de ça. Dieu m'a appris. Alors, je ne dis pas que je ne me bats pas avec ce genre de truc à certains moments, mais à un moment, tu dis, Seigneur, moi, je ne m'inquiète pas avec ça. C'est toi qui sais. C'est ton problème. Ce n'est pas ma vie, c'est la tienne. Tu fais de moi ce que tu veux. Alors, j'aimerais vous dire que l'abandon est quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Non, ce n'est pas le cas. Paul donnera d'ailleurs de cette problématique une image saisissante que j'ai déjà traitée il y a longtemps, mais je vous rappelle ça. Romains 12, 1. En fait, pendant les 11 premiers chapitres, avant le chapitre 12, il a développé une théologie de l'amour de Dieu carabinée. Pendant 11 chapitres, en résumé, je vous fais le résumé très vite. Dieu vous a aimé. Donc, puisqu'il vous a aimé et qu'il vous l'a prouvé, plus que ça, je ne sais pas s'il peut faire, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, parce que Dieu vous a aimé, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte, ça me fait toujours bien rire, un culte raisonnable, logique, cohérent. Il vous a aimé, il vous l'a prouvé, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il vous donne sa vie, son esprit. Donc, vivez par rapport à ça. C'est logique. Et en faisant ça, vous faites simplement quelque chose de cohérent. Youpi. Alors, sous l'ancienne alliance, parce que c'est ça le contexte, Paul était un peu juif sur les bords quand même. Sous l'ancienne alliance, vous savez sans doute, les sacrifices présentés dans le temple étaient tués, puis placés sur l'autel pour être consumés par le feu. D'accord ? Ça, c'est en gros. Mais pourquoi les tuait-on avant de les mettre sur l'autel ? On les tuait et on les mettait sur l'autel. Pourquoi ? Parce que vivant, ils ne seraient jamais montés dessus. Et pas fou le bœuf. Tu crois que je n'ai pas vu que tu voulais m'égorger, pauvre type ? Donc la bête, elle carapatait de toutes ses forces pour ne pas y aller. D'accord ? Et c'est ça l'analogie. Paul dit, vous n'êtes plus des sacrifices morts, Vous êtes des sacrifices vivants. C'est à vous à monter sur l'autel devant Dieu et c'est à vous d'y rester. On s'assied et on y reste. Volontaire. Ma vie, c'est toi. Voilà. C'est fou le nombre de fois où je descends de l'autel, moi, à titre personnel. Je dis, oh, je suis nouveau descendu. Mais je trouve cette image très forte. Donc à chaque instant de nos vies, au début c'est fatigant, hein, à chaque instant de nos vies, nous devons faire le choix, si nous avons quitté l'autel, d'y remonter. Déjà, il faut prendre conscience qu'on en est descendu, déjà. Et une fois qu'on en a pris conscience, qu'est-ce que je fais? Je remonte ou je ne remonte pas? Mais si on veut être cohérent, et si on croit vraiment que Dieu nous a aimés, qu'il a vraiment donné son Fils et que Jésus est mort pour moi, qu'il avait mon prénom dans sa tête au moment où il rendait l'âme, mes amis, maman, c'est incroyable qu'il faut convaincre les gens de ça, quoi. Non? Franchement, quelle chance qu'ils nous aiment. Hein. Pareil pour moi. Hein. Donc cet abandon, au moment même, ça peut un peu rassembler à la mort, comme quand on emmenait un agneau ou une brebis pour se faire égorger. Pourquoi ça ressemble un peu à la mort, comme j'ai tout à l'heure répété? Parce que nous sommes un sacrifice. Notre vie doit l'être. Mais en fait, c'est la seule façon de vivre vraiment parce que nous sommes un sacrifice, nous sommes appelés à être des sacrifices vivants. Je vous donne un exemple pratique et je vais terminer bientôt. Si vous êtes sage, hein. Sinon je rajoute une couche. Bon, j'ai bien tout le monde à chaud. Je vous donne un exemple pratique. Supposons qu'au travail, qu'on passe quand même 8 heures de notre vie au travail, supposons qu'on travaille, quelqu'un a fait quelque chose qui m'a vraiment fâché. La situation est compliquée et je ne sais pas vraiment comment répondre correctement à ce qui se passe. Sans que je l'ai spécialement demandé, mon esprit va se remplir, ma tête, hein, d'un tas de mauvaises pensées, d'un tas de trucs, mais où je me vois foutre un coup de boule à la personne, prendre la graffeuse de bureau, enfin soit, vous inventerez. Hein. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais les pensées, elles continuent d'arriver. Hein. Ça arrive et ça arrive. Alors là, il faut commencer à se dire, qu'est-ce que Dieu me dit? Alors là, il faut commencer à énumérer dans sa tête, pour contrer les pensées, ce que je sais que Dieu me dit. Pas de meurtre. C'est un des commandements quand même. Bon d'accord, je ne tuerai pas le gars, ça va. Seigneur, ok, bon, j'y ai un peu pensé, c'est vrai, mais je ne le tuerai pas. Pas de violence. Oui, ok, je ne le frapperai pas non plus. D'accord, ok. Pas de médisance. Donc, pas de cassage de sucre. Je ne vais pas commencer à colporter des trucs pas sympas sur son dos. Et là, si je me dis, oui, ok, je ne le tue pas, je ne le frappe pas, mais est-ce qu'il n'y aura pas moyen qu'on s'arrange au niveau de la médisance? Parce que moi, j'aimerais quand même un peu ouvrir les vannes et qu'on casse un peu du sucre quand même. Ben, Dieu dit non, ça non plus. Pourquoi? Ce n'est pas ta vie, c'est la mienne que tu. C'est ma vie à moi que tu vis. Et moi, Jésus dit, moi, je ne suis pas comme ça. Et toi, tu dois devenir quelqu'un qui me ressemble, moi. Donc, tu ne feras pas ça. C'est pas facile, tu vas apprendre à fonctionner autrement. Donc, l'abandon signifie que quand j'ai ce genre de problème, je dois le gérer d'une manière qui honore Dieu. Pas qu'il me fait du bien à moi, oh, je lui ai foutu deux claques, mais ça m'a soulagé. Non. Ça doit honorer Dieu. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous foutez une claque au gars, par exemple, hein, ça va durer. Allez, pour les plus bétonnés intérieurement, les plus. Hein, ça va durer combien de temps avant qu'on se sente vraiment mal? Ça va aller plus ou suivant les personnes, hein, ça va aller plus ou moins vite. Hein, on va être vraiment, et alors qu'il va se passer, non seulement on va se sentir mal, non seulement on va devoir demander pardon à Dieu, et le Seigneur dira, mais oui, mon gros loulou, hein, t'es un grand cinglé, je te pardonne, non, tu vas voir la personne et tu demandes pardon. Voilà. Youpi. Il y a d'autres options dans ce genre de situation, hein, qui me plaisent plus que le fait de gérer ça comme Jésus le gérerait. Ben, c'est l'évitement, la fuite, la médisance, j'ai dit l'explosion. Tout ça, c'est en moi. Au moment où ça se passe, je donne tout ça à Dieu, j'abandonne ça à Dieu. Si ma blessure est profonde, ça peut être le cas. Hein. Ça va me prendre pas plus de 5 minutes pour que des scénarios de vengeance fassent irruption dans mon esprit. Mais je vais devoir à nouveau abandonner ça à Dieu. Alors, il y a des trucs, ça va prendre des plombs, on sait bien. Mais c'est le seul chemin. Et parfois, il faudra se faire aider par quelqu'un de compétent aussi pour que ça aille un peu plus vite que prendre 35 ans. Parce qu'on ne va pas vivre 8000 ans ici. Donc, c'est 80 maintenant. Enfin non, il paraît 120 et tout le monde fait « Youpi !» Moi, pas 120, les gars, ça moi jamais. avec mon Baxter, là, il est infirmière, non. Avec le temps, je vais reconnaître ces scénarios dans ma tête beaucoup plus vite. Dès que la première image arrive, je bloque, terminé, ça rentre pas, ça dégage, comme si vous aviez un sorteur à l'entrée de votre tête. Je t'ai vu, toi, tu n'as pas la tête, tu rentres pas, tu dégages. Bon, c'est à imager ce que je dis, mais c'est le principe. Hein. C'est ça le combat spirituel hein, dont parle la Bible. Hein. Ce n'est pas foutre des coups de boule aux démons, hein, arrêtez avec ça. Hein. N'essayez surtout pas entre nous. Donc, au cœur de ma vie et de la vôtre, il y a toujours cette éternelle question, qui mène la danse? Qui conduit? Je peux avoir un cœur rebelle qui dit à Dieu de rester en dehors de la voiture, que j'irai où je veux et quand je veux avec ma vie, ou je peux avoir un cœur divisé qui garde Jésus dans la voiture, mais qui lui dit quand même, écoute, je vais quand même continuer, t'es là, hein, je suis content que tu sois là, mais je vais quand même continuer dans cette direction parce que ça me plaît bien, et puis voilà, et tu ne feras pas changer d'avis. Vous serez étonné du nombre de gens qui débarquent là dans le petit bureau à côté, qui ont envoyé tout promener, qui vivent des vies, enfin, comme ils veulent depuis des lunes, mais des lunes, hein, et qui viennent, oui, Dieu ne me bénit pas, et pourquoi j'ai pas un meilleur travail? Et moi, je suis là, oui. Il va falloir recommencer du début. Ça va prendre longtemps. On conduit la baraque, on se prend des murs parce que forcément, nous ne sommes pas Dieu, donc on va prendre de mauvaises décisions. Et quand il y a les conséquences des mauvaises décisions qui arrivent, c'est pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Que rebelle, on l'a tous un petit peu, hein. Alors, on l'a déjà dit parce que j'ai traité cette problématique du cœur divisé, ben ça nous rend malheureux, forcément. Parfois, nous parvenons à garder le sentiment de culpabilité vague et diffus parce qu'il est toujours là. Parfois, il sera plus vif. Mais si notre cœur est sensible envers Dieu et que nous le tenons en dehors du siège conducteur, la culpabilité, de toute façon, elle va rester. Parce que c'est un élément déclencheur de retour vers Dieu. La bonne culpabilité, hein, pas celle qui éloigne de Dieu. Donc, une seule chose, va rétablir cette paix intérieure entre lui et nous. Et cette paix avec nous-mêmes, c'est de nous réabandonner, remonter sur l'autel totalement à Dieu. Et je prends un dernier texte. Pas vraiment. Ah là non, hein. Aïe, aïe, aïe. Vous parlez quand même beaucoup aujourd'hui. J'ai été crucifié, ça fait peur aussi. Hein. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Paul qui le dit. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon cœur, donc il est là sur la terre, il vit sa vie, quoi. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Plus ma vie, la sienne. Je lui confie ma vie. Donc, ça veut dire que je cherche vraiment, mais vraiment, hein, à obéir à ce que Jésus dit. Je perds une vie, la mienne, celle qui était la mienne avant, c'est vrai. Ben, la plupart d'entre nous qui avons rencontré Dieu, je pense que votre vie est sensiblement différente. Il y a des trucs que vous avez abandonnés hein, et que vous aimiez. Non, moi c'était la musique par exemple. La musique c'est sorti de ma vie parce que ça prenait trop de place. C'était mon idole, la musique. Ah ben, idole et Dieu, no good, dégagé. Voilà. J'ai perdu cette vie-là, la vie de musicien, de star du rock, des foules en délire. Voilà, je ne serai jamais adulé. Hein. Mais n'empêche que cette vie-là, je l'ai perdue. Mais ce n'est pas grave, puisque j'ai hérité d'une véritable vie, de la vraie vie. Ce qui est très interpellant quand on lit l'Évangile, c'est que Jésus il identifie toujours le domaine particulier dans lequel ses interlocuteurs ont besoin de se rendre. À la femme prise en flagrant délit d'adultère, il dit, on connaît bien ce texte hein, en Jean 8, « Je ne te condamne pas. » Ce qui est pas mal quand même, il pourrait. Hein. Ça, c'est super, ça on a retenu. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit après ?« Va et ne pêche plus. Laisse cette vie-là, quoi. Laisse-la et prends la mienne. Hein. Ça, c'est terminé. Hein. Nous avons donc besoin d'abandonner notre sexualité à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu feras pas ce que tu veux. J'ai mis un cadre pour ça, j'ai mis des règles, enfin des règles, on peut appeler ça comme ça. Même ça, moi, ta sexualité, c'est moi qui dois contrôler ça. C'est-à-dire qu'au cours des siècles, quand même, la sexualité est devenue, et certainement aujourd'hui, un outil de pouvoir. Puis il y a le jeune homme riche, je vous rappelez, que Jésus aime en le voyant. Parce que Jésus voit très bien à l'intérieur de cet homme, à ce jeune gars, qu'il a le désir quelque part de plaire à Dieu, mais il sait aussi qu'il a un truc qui le retient de faire ce que Dieu veut. Et puis il s'en va tout triste parce qu'il ne veut pas lâcher son pognon, là même, le contrôle qu'il a sur ses biens, il ne veut pas le lâcher à Dieu, il ne veut pas que ce soit Dieu qui s'occupe de ça. Et le texte dit, c'est un texte terrible, hein, Jésus dit, enfin le narrateur dit, le jeune homme riche est parti, retourné chez lui, tout triste. Parce que nous aurons abandonné notre argent à Dieu. Parce que l'argent touche, et c'est l'enseignement du Nouveau Testament, hein. Ce n'est pas une diabolisation de l'argent, l'argent on en a besoin, mais pour faire l'œuvre de Dieu. L'argent touche à la confiance et au contrôle. Dans quoi je place ma confiance? Et qu'est-ce qui me permet de contrôler les choses? L'argent est un élément et de stabilisation de sa confiance, déplacée, et un élément de contrôle. Plus souvent encore, l'abandon nécessitera la révélation d'une rancune, d'une attitude, d'une habitude, d'un péché qui est ancré ou d'une blessure profonde qui n'a jamais été cicatrisée. Je reviendrai à ce. Je saute des passages parce que j'y reviendrai plus tard, parce que sinon Jésus est trop long. Donc en résumé, pratiquement, vous verrez, si ce n'est pas déjà fait, hein, si c'est déjà fait, ben, si vous avez l'habitude de cette pratique d'abandon, vous savez que dans un premier temps, ça peut mettre mal à l'aise. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est parce que ça vous met mal à l'aise que c'est vraiment de l'abandon. Hein. Parce que c'est contre nature humaine, déchue, pécheresse, de filer les clés de ma vie à quelqu'un d'autre. Hein. C'est aussi bête que ça. Donc ça, dans un premier temps, ça va me mettre un peu mal à l'aise. Parce que je vais devoir expérimenter un peu que je peux faire confiance à Jésus. Ça sert à dire, oh Seigneur, je te fais confiance. Oui, ouais, tout ça c'est très joli, mais dans la pratique. Le péché a détruit notre capacité à nous abandonner en détruisant notre position de dépendance de Dieu pour entrer dans celle de l'opposition envers Dieu. C'est de là que vient ce malaise quand on commence à pratiquer l'abandon. Ça fait des millénaires que nous avons appris, génération après génération, à diriger nous-mêmes en opposition à Dieu. Et là, quasi du jour au lendemain, Dieu dit, maintenant tu vas me remettre tes clés. C'est moi qui vais diriger. Pff, c'est pas de la tarte. Hein. Alors certains se battront un an avec ça, d'autres 10 et d'autres toute leur vie. Et vous êtes content d'être venu. Hein. Donc c'est le petit Dieu homme, face au grand Dieu créateur. Ah, c'est ça le deal. Hein. Donc, ce n'est pas pour rien que l'acte d'abandon est un acte inconfortable. Mais la bonne nouvelle, il le sera de moins en moins au fur et à mesure qu'on le posera et au fur et à mesure qu'on verra que c'est quand même génial de voir ce que Dieu fait quand on y confie les mains de la maison, sur quel sentier il nous emmène alors qu'on ne s'y attendait absolument pas. On se retrouve dans des situations qu'on n'aurait jamais espéré vivre, où on sert vraiment à quelque chose. Vraiment. Et je ne suis pas seul, je termine par ça. Je rappelle quand même, on a l'Esprit Saint. On n'aurait pas l'Esprit Saint, on serait mal. Mais on a la présence de Dieu en nous. Et je termine vraiment par ça. Ouais. Un des enseignements les plus étonnants de l'Écriture est celui où, à travers Jésus, Dieu lui-même expérimente la douleur de l'abandon. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Au jardin. On va reprendre un verset quand même pour se rafraîchir la mémoire. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Heureusement que Jésus n'était pas comme nous. Hein. Moi, je suis à sa place. Bon, jusqu'ici, je faisais des miracles. Seigneur, c'était plutôt sympa. J'étais adulé par les foules. Cool, hein, ouais, voilà. Je marche sur les eaux. La croix et tous ces imbéciles vont m'insulter, me cracher au visage, me frapper et me crucifier. Pff, je ne veux pas en allonger un ou deux avant que... Ouais, c'est ta volonté, Père. Mais tout comme l'abandon a mené Jésus à sa résurrection, il y mènera aussi ceux qui le suivent. Hein. On porte notre croix, mais la destination, si on suit Jésus, est la même. Hein. C'est la résurrection. Hein. C'est une vie de ressuscité déjà, aujourd'hui et ici. Et l'apôtre Paul écrit ceci dans sa lettre aux Colossiens, et on est en ligne directe avec cette parole de Jésus. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, les notions de gloire sont assez floues, je trouve, pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, paraître avec lui dans sa gloire ? Ben, pratiquement, ça signifie que le jour vient où ce sera une chose glorieuse et magnifique d'être vous. C'est aussi bête que ça. Un jour, quand le royaume viendra, ce sera extraordinaire d'être vous. Parce que vous serez totalement transformés à l'image du Christ. Une des plus nobles pensées concernant Dieu nous vient de Moïse, lors de sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï. Moïse a demandé, je comprends la demande, « Fais-moi voir ta gloire », la gloire étant l'essence même de l'être de Dieu. Et c'est là, moi, quand je lis le texte en Exode, c'est là que je m'attends à des effets spéciaux, des éclairs, du tonnerre, un tremblement de terre, pourquoi pas. Ben, il n'y a rien de tout ça. Dieu se contente de dire, je ferai passer devant toi, quoi ? Pas ma gloire, toute ma bonté. C'est intéressant ça quand même. La chose la plus glorieuse concernant Dieu, et c'est de ça que le premier homme et la première femme ont douté, c'est à quel point il est bon. Alors pourquoi est-ce qu'on ne lui donnerait pas les clés de notre vie ? Un jour, vous nagerez dans cette bonté. Vous serez immergé dans cette bonté. Tout ce qui est petit et mesquin en vous s'en sera allé. Autrement dit, glorifier Dieu, comme dit Paul, consiste à être le genre de personne que les gens regardent en se disant que le Dieu de cette personne doit être grand pour avoir transformé cet être comme ça. Hein, rappelez-vous dans un autre texte de Paul, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Futur, mais ici déjà. Vous savez, Néron, quand il assistait au martyr des chrétiens, savez ce qui, et c'est Pline le Jeune qui raconte ça dans ses annales. En fait, il a arrêté d'assister. Vous savez pourquoi ? Il y a eu plusieurs jours, hein, plusieurs soirs. On savait, hein, le soir, il éclairait ses jardins avec des chrétiens en train de flamber, comme des torches humaines. À un moment, il a arrêté d'assister au martyr des chrétiens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il en avait marre à les entendre chanter des cantiques et de sourire. Voilà. L'espérance de la gloire. Une dernière diache, ou enfin une avant-dernière peut-être. Ouais. Le seul chemin qui mène à la gloire, c'est l'humilité, et le seul chemin qui mène à la liberté, c'est la soumission. C'est le chemin emprunté par Jésus. On n'en aura pas d'autre. Hein. Et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Je pense que Jésus était un leader compétent, et c'est toujours un leader compétent. Tous les matins, lorsque vous ouvrez les yeux, vous pouvez être pleinement confiant en lui. Et dire, par exemple, aujourd'hui, tu diriges et je te suis. Mes relations, mon corps, ma santé, mes finances sont entre tes mains. Je ne veux plus jouer à être Dieu dans ma vie. Un jour à la fois, en commençant par aujourd'hui, Seigneur, je te le dis, conduis et je suivrai. Parce qu'il y a un Dieu et ce n'est pas moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.